foi. Mais laisse-moi te dire que Jésus est venu nous révéler le Père. Celui qui est ton Père, celui qui veut être ton Père. Il est un bon Père. Je crois qu'il est le Père que tous les êtres humains aspirent à avoir. Et Jésus est venu nous révéler le Père. Et l'apôtre Paul nous le rappelle. Et ce matin, il est nécessaire qu'on se le rappelle. Merci pour l'écoute. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Et je t'invite, si tu le crois, à répéter cette phrase et à te l'attribuer. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit. Que je suis enfant de Dieu. Or, si je suis enfant de Dieu, je suis aussi héritier. Héritier de Dieu et héritier de Christ. On va s'arrêter là. La version seconde 21 va dire « si toutefois » et d'autres versions vont mentionner « car » ou « fait le constat que nous sommes éprouvés, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu. » Ce matin, des fois, je sais qu'il y a des gens qui vivent des épreuves à l'intérieur, dans le cœur. On est éprouvé par des pensées accusatrices. On a été persécuté par de la maltraitance, des fois dans l'enfance ou avec des collègues. Mais nous avons aussi des frères, des sœurs qu'on ne connaît pas, mais qui sont éprouvés, persécutés à travers le monde. Et même si dans la vie de certains, les temps sont très sombres, la lumière ne peut pas être étouffée. Et je vais lire un passage dans Matthieu, parce qu'on prend la Sainte Cène, mais alors qu'on va prendre cette Sainte Cène, on va la prendre pour nous une première fois, et puis on va la prendre une deuxième fois alors que on va reprendre le chant de la bénédiction. Et vous n'allez pas chanter, nous n'allons pas chanter ce chant pour nous, mais nous allons chanter ce chant pour ceux qui sont éprouvés. Nous allons le déclarer pour leur vie. Matthieu 26 va dire ceci. Au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Nous allons la chanter. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Nous faisons ces choses en souvenir, comme Dieu nous l'a demandé, comme Jésus nous l'a demandé, de le faire en souvenir de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, jusqu'à ce qu'il revienne. Et ce matin, je vous invite à ouvrir la première pellicule et à prendre le pain. À manger ce pain comme Jésus le disait à ses disciples. Seigneur, nous reconnaissons que tu es mort à la croix pour chaque être humain. Le châtiment que nous devions tous recevoir à cause du péché. Ce châtiment, tu as choisi de le prendre sur toi afin d'accomplir la justice de Dieu ton corps a été meurtri, brisé, pour nous. Et ta parole dit que nous sommes même guéris par tes meurtrissures. Et alors que nous prenons ce pain, Seigneur, je prie pour ceux qui souffrent dans leur corps, qui puissent recevoir de toi guérison, qui puissent recevoir de toi, dans le nom de Jésus, guérison maintenant. Il est écrit au verset 27, « Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, celle qui est éternelle, celle qui est parfaite, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Je vous invite à prendre le fruit de la vigne en retirant la deuxième pellicule. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as fait rentrer. Tu nous as fait rentrer dans ton alliance. Ce que tu avais promis à Abraham. Ce que tu avais promis à Isaac, à Jacob, tu l'as accompli en Christ. Et Seigneur, nous saisissons cet accomplissement par la foi. Nous le saisissons, oui, pour nos vies, mais nous le saisissons aussi pour nos frères et sœurs qui souffrent. Et Seigneur, je lis ce passage, je le déclare alors qu'on va aussi le chanter. Je déclare Nombre chapitre 6, à partir du verset 22, qui dit « L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Je vous invite avec Pasteur Christophe et avec Yamilette à chanter en faveur de nos frères et sœurs qui sont persécutés, qu'on déclare par ce chant la bénédiction sur eux. Pendant qu'ils chantent, je vous invite à prendre la deuxième coupe, à prendre le pain pour nos frères ou notre sœur qui ne peut pas le croire. Je vous invite à prendre le fruit de la vigne pour cette sœur qui est persécutée, qui a été victime d'un attentat, par exemple, et à prier et chanter la faveur de Dieu sur leur vie. Thank you.
te bénissons et nous te remercions. Nous te bénissons parce que nous savons qu'en toi, nos frères et sœurs persécutés trouvent réconfort et joie au milieu de l'innommable, au milieu de choses que nous ne pouvons même pas concevoir dans nos têtes, au milieu de choses qui sont pour nous au-delà de l'humain. Au-delà de choses que dans la liberté de l'Évangile, nous n'imaginons même pas. Que ta grâce les environne. Que ta paix soit toujours avec eux. Veille sur ton peuple. Veille sur ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des moments comme ça qui sont comme des moments d'arrêt, où Dieu nous amène à nous décentrer de nos propres soucis, de nos propres situations, pour regarder à autrui. Cela ne veut pas dire que nous ne souffrons pas. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas éprouvés. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Cela veut juste dire, arrête-toi un moment et regarde à ton prochain. Et ce matin, pendant ce culte, nous allons nous arrêter un moment et nous allons regarder à nos frères et sœurs dans la foi qui n'ont pas la grâce que nous avons. En ce qui concerne les offrandes, la parole que j'avais, c'est que la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Que les moments des offrandes ne soient pas pour nous un moment d'épreuve, mais un moment où nous manifestons simplement notre gratitude. Dieu lui dit merci. Merci pour la vie, merci pour la paix, merci pour ce que je suis. Et je vais vous rappeler qu'il y a trois façons de donner au comptoir de la librairie à la fin du culte, par vos institutions financières et par chèque. Les annonces, je n'irai pas comme Christophe les annonces de la paroisse, mais bon. Mardi 8 novembre, nous avons intercession en présentiel. Nous avons également la rencontre jeunesse le vendredi 11 novembre avec la projection d'un film documentaire. Donc, vous êtes invités. Dimanche prochain, ça va être le dernier dimanche pour remettre vos boîtes. Parce que c'est aujourd'hui que nous arrêtons officiellement l'opération, dans le sens qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour donner pour le transport, pour payer pour une boîte ou pour prendre une boîte. Nous clôturons les comptes aujourd'hui parce que la semaine prochaine, nous devons être capables de vous dire combien est rentré, combien de boîtes nous avons, parce que la semaine qui va suivre, c'est la semaine nationale de collecte. Donc les boîtes vont partir au centre de collecte de la ville de Québec. La prochaine rencontre des ados, ça va être le dimanche 13 novembre. Après le temps de louange, donc les adolescents, vous êtes prévenus. Pour ce qui concerne les adolescents, le 25 novembre, il y aura aussi un ralliement pour la jeunesse. Les ados et les jeunes adultes sont attendus. Il y a une mention spéciale pour les parents qui sont invités à venir laisser leurs adolescents et à s'organiser pour que vos adolescents puissent participer, parce que c'est vraiment un temps qui leur est réservé. C'est pas souvent que les adolescents ont des programmes spécifiques comme ça pour eux. Et c'est vraiment intéressant. On sait qu'à l'adolescence, la connexion avec les autres, c'est très important. Donc, permettons à nos adolescents de vivre ces moments. Le dimanche 27 novembre, il y aura une soirée film avec chez Philippe, chez Philippe. Vous pouvez contacter Philippe pour les détails. Ça va être une projection de film. Il m'offre que ce soit les breuvages, que ce soit des petites choses à grignoter. C'est la projection du film Samson et Delilah. Et l'avantage, c'est qu'après la projection du film, il y a un temps de discussion autour de la thématique. C'est vraiment, je pense, des moments bénissants et enrichissants qui permettent d'échanger de manière un peu moins, on va dire, traditionnelle que d'après le traditionnel verset biblique et la traditionnelle exhortation. Je pense que c'est un moyen d'initier une discussion sur la Bible qui peut être très enrichissant. Voilà, j'y suis arrivée. Je vais appeler le pasteur Marjorie pour son annonce. Ah, c'est pas le pasteur Marjorie, c'est la sœur Marceline, la célèbre sœur Marceline, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein. C'est une puissante sœur dans le Seigneur, hein. Si vous avez des problèmes, vous avez besoin de prière, vous avez besoin de, hein, de tout briser là. Je vous présente.
Je ne les vois pas. Bonjour tout le monde. Moi ce matin, depuis le début du culte, on parle des différents noms de Dieu. Et pasteur Bruno aussi a mentionné le nom de Jéhovah Jéré. Et ce matin, moi je veux vous parler de Jéhovah Jéré qui a agi vraiment dans le ministère des dames. Et pourquoi Jéhovah Jéré? C'est dans Genèse 22, 13 à 14, quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son unique fils, et qu'en lieu et place, ça a été un bélier qui a été fourni, et Abraham a appelé ce lieu Jéhovah Jéré. Et lorsque nous, on a commencé à vouloir, on a commencé à parler de la retraite, pasteur Marjorie a eu à cœur qu'il y ait un autobus, tout ça, toutes les femmes qui se sont inscrites, tous ceux qui sont là sont au courant. Et on a vu qu'il y a des frères et des sœurs dans l'église qui se sont levés et qui ont mis la main dans la poche, que ce soit de façon matérielle, que ce soit en procurant de quoi pour le Café des Nations, qui est vraiment quelque chose qui a à cœur pour notre cher pasteur, qui veut qu'à la fin des cultes, les gens, au lieu de partir rapidement, puissent connecter. Et lorsqu'on a amené cette idée, il y a la sœur Hilda qui a été approchée, elle a dit tout de suite oui. Et vous savez, le premier jour où le Café des Nations était ouvert, il y a un jeune homme dans la salle qui a utilisé ses ressources et qui a dit « Je veux vous aider ». Et c'est Paul. Alors ce matin, je me tiens là pour dire merci à ces personnes-là qui ont pourvu. Alors Paul, merci. Merci d'avoir dit oui. Merci d'avoir fait tes mikates, vraiment. Lève-toi, lève-toi. Ensuite, il y a la sœur Anne. La sœur Anne aussi qui a mis la main dans la pâte. Il y a les deux Grâces, il y a Céline, il y a Hilda aussi. Et vous savez, j'aime bien me tenir quelque part et puis écouter. Écouter les gens et les regarder. Et j'étais assise à l'action de grâce vers le multimédia. Et j'ai entendu une sœur me dire, Marceline, est-ce que c'est les gâteaux de la sœur Bonnie que tu es en train de manger? J'ai dit oui. Est-ce que tu sais qu'elle utilise du lait sans lactose pour faire ses gâteaux? À cause des enfants. Parce qu'elle a pensé qu'il y a des enfants qui ont des allergies. Et l'inflation, c'est partout. Je pense que c'est chez tout le monde. Alors, Bonnie, merci. Merci pour cette délicate attention. Merci aux deux Grâces. Merci à Valérie, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Merci Hilda. Vraiment. Et on aimerait ça perpétuer le Café des Nations. Alors si vous avez à cœur vraiment de soutenir, de contribuer, pour qu'on puisse connecter selon le cœur de notre pasteur, alors n'hésitez pas, ça peut être de différentes formes, parce que ce n'est pas seulement le ministère des dames. On veut aussi plus tard pouvoir aider d'autres ministères. Là, c'est le mois de l'Église persécutée. Alors, n'hésitez pas. On ne veut pas attendre que ce soit le moment et puis on est pris à la dernière minute. alors que ce soit vraiment en toute discrétion selon le cœur de tout un chacun. Donc, merci à tout le monde, merci pour vos prières et priez pour que ça puisse continuer, que le pain et le lait ne manquent jamais sur vos tables. On est reconnaissant et ce matin, on dit merci. C'est parce qu'on ne dit pas merci qu'on n'est pas conscient. On voit, on observe et ce matin vraiment, que Jéhovah Jireh rencontre tout un chacun ce matin. Soyez bénis, merci.
Ah, je vous avais dit que... Il y a une onction. Nous aurons une dernière annonce à la fin du culte lorsque la diffusion en ligne sera coupée pour des raisons de sécurité. Nous ne pouvons pas diffuser cette annonce en ligne. Vous comprendrez pourquoi à la fin. C'est un moment particulier pour moi parce que c'est un moment que j'ai préparé depuis des semaines. Et c'est un moment qui m'a fait réaliser à quel point je suis bénie. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 novembre. Dans le monde entier, dans toutes les églises, c'est le dimanche de prière pour l'église persécutée. C'est un moment où nous sommes tous unis pour penser à nos frères et sœurs qui risquent leur vie simplement en ayant une Bible. Nous allons passer à la diapositive suivante, s'il te plaît, Philippe. Depuis l'année dernière, les pasteurs ont décidé de transformer ce jour unique du premier dimanche de chaque mois de novembre en mois de l'Église persécutée. Et de consacrer l'entièreté du mois de novembre au fait de nous souvenir de nos frères et sœurs dans la foi qui vivent la persécution. Diapositive suivante, s'il te plaît. Cette image, c'est un chrétien de Corée du Nord. Parce que cette année, nous avons décidé de consacrer ce mois aux chrétiens de la Corée du Nord. Et je vais vous expliquer pourquoi. Depuis plus de 20 ans que l'Observatoire de persécution des chrétiens existe dans le monde, la Corée du Nord a toujours occupé la première place pour le niveau de persécution. C'est seulement en 2021 que la Corée du Nord a été remplacée par l'Afghanistan avec le retour des talibans qui occupe désormais cette sinistre première place. Dans cette diapositive, nous voyons un chrétien humilié publiquement et sûrement emprisonné ou exécuté par la suite. C'est un pays où il est interdit de prier, même chez vous. Il est interdit de croire, même pour vous-même. Le seul fait de croire ou de prier peut entraîner des arrestations, des tortures, l'emprisonnement, déportation dans des camps de rééducation ou même des exécutions publiques. La persécution en Corée du Nord est une persécution quasiment unique dans le monde parce que ce n'est pas une persécution religieuse. La plupart des persécutions sont des persécutions religieuses. Par exemple, en Inde, c'est la religion. C'est parce que les chrétiens changent de religion. Dans les pays musulmans, c'est aussi la même chose. Mais en Corée du Nord, c'est particulier parce que c'est la nature même du régime, qui est un régime totalitaire, qui crée la persécution. Parce que le régime estime que le christianisme est une menace pour lui. Parce que c'est un régime qui est basé sur le culte au leader. Donc les chrétiens, dans un pays où tout est contrôlé par l'État, créent pour l'État comme un espace de vie secondaire que l'État ne parvient pas à contrôler. Donc,
qu'il faut par tous les moyens éteindre le christianisme. Ceux qui décident de suivre le Christ dans ce pays ne peuvent le dire à personne. Parce que même les enfants dans les écoles sont encouragés à dénoncer leurs parents. Donc même vos propres enfants. En partageant votre foi avec vos enfants, vous courez le risque, ce sont des enfants. Il est facile de tirer les vers du nez d'un enfant. Donc si vous partagez votre foi avec votre enfant, vous courez le risque que cet enfant, dans son innocence, vous dénonce sans se rendre compte qu'il vous a dénoncé. Et si vous êtes dénoncé, vous risquez la prison et la mort. Tout signe d'appartenance au christianisme, y compris la possession d'une Bible, peut conduire à l'internement dans un camp de travail, et je vous donne le motif, pour déloyauté envers le régime. La diapositive 4, ce sont des femmes chrétiennes. Vous allez vous rendre compte qu'on fait tout pour qu'elles ne soient pas identifiables. Le Dieu, c'est un Dieu neutre. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler de Ri Yong Ok. Ri Yong Ok. Vous n'avez sûrement jamais entendu parler d'elle dans les médias. C'est surtout les sites chrétiens qui ont relayé son histoire. Ri Yong Ok, c'était une sud-coréenne, une nord-coréenne comme toutes les autres, mariée, 33 ans, mère de 3 jeunes enfants. Elle a été publiquement exécutée le 16 juin 2009 pour avoir été surprise à donner une Bible à quelqu'un. Son mari et ses 3 enfants ont été envoyés dans un camp de travail. Un camp de travail, c'est le terme politique pour désigner des véritables camps de la mort. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais les chances qu'ils aient survécu sont très, très minces. Diapositive qui suit. On appelle l'église de Corée l'église du silence, parce que c'est une église qui, évidemment, pour survivre, doit tout faire pour ne pas être connue. Les lieux de réunion sont secrets, l'église est secrète, c'est pour ça qu'on l'appelle l'église du silence. Elle représente, selon différentes sources, plusieurs milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes qui se réunissent dans des lieux privés. Il est très difficile d'avoir des nouvelles des chrétiens de Corée du Nord pour des raisons que vous comprenez. Et Porte Ouverte, c'est un organisme qui est consacré exclusivement au soutien des chrétiens persécutés dans le monde, et je vous invite à faire un tour sur leur site. Et une lettre est sortie clandestinement de Corée du Nord et est parvenue à Porte Ouverte. Je vais vous la lire. Chers frères et sœurs,
l'évangile en nous. Et je sais et j'ai entendu plusieurs témoignages, que ce soit ici, au carrefour des nations, qu'à l'extérieur, plusieurs chrétiens qui disent, qui partagent des témoignages de ce que Dieu fait à travers eux, au travail ou dans leur famille. Et je crois que Dieu désire que nous soyons une lettre ouverte. Une lettre ouverte de l'évangile autour de nous. Et j'aimerais lire un texte dans la première épître de Pierre. J'aurai l'occasion d'aller en détail dans les prochaines semaines. Je veux vous encourager aussi à être là dimanche prochain. Dimanche prochain va clôturer une fin de semaine de retraite pour les femmes du Carrefour des Nations, les femmes CN. Il y a, ce que j'ai appris, il y a une 50aine de femmes qui vont aller en retraite, prendre le temps pour clôturer la tribu précieuse comme un diamant. Et l'invité Stéphanie Rieder-Poirier sera des nôtres dimanche prochain. Et je vous invite à venir emmener même des amis. Nous désirons aussi, et je vous le mentionne, nous désirons aussi prendre une offrande d'amour pour elle. Nous désirons la bénir, donc vous pourrez mettre ça devant Dieu durant la semaine. Il n'y a pas, Il n'y a pas de montant d'argent trop petit ou trop grand. Okay. Allez-y selon votre cœur, mais je veux que vous puissiez vous préparer. Mais j'aurai aussi l'occasion de vous parler de la première épître de Pierre, la première lettre de Pierre, qui est une lettre d'encouragement à des chrétiens qui étaient persécutés ou qui allaient être persécutés. C'est comme si l'apôtre Pierre écrivait de l'Irak à des personnes en Afghanistan, ou comme s'il écrivait du Mexique à des personnes de la Corée du Nord, pour les encourager à persévérer. Et le premier chapitre est une note d'espoir, vraiment pour nos frères et sœurs de l'époque. Et c'est intéressant parce que les premiers versets citent les régions à qui ils s'adressent, les régions où des chrétiens se trouvent. Et c'est vraiment intéressant, ce sont les mêmes régions ou les mêmes chrétiens qui, pour plusieurs, se sont retrouvés à la Pentecôte dans Acte 2. Ils étaient de plusieurs régions, des croyants, des étrangers qui avaient embrassé la foi juive et qui étaient venus adorer Dieu. Et plusieurs, en étant témoins de ce que Dieu faisait dans la chambre haute, ont donné leur vie au Seigneur après la prédication de Pierre. Et il semble que Pierre leur écrit pour les encourager. Et on va s'arrêter sur un verset en particulier, puisque le thème du mois, c'est « Éprouvé par le feu ». On aura à la diapositive 6, Philippe, si tu peux la mettre, ma sixième diapositive. C'est le verset 7 de 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Je vous lire ce verset dans la version français courant. Okay? La version français courant va dire ceci. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir l'orange, gloire et honneur quand Jésus-Christ paraîtra. Certes, et c'est clair, et à travers toute la lettre de l'apôtre Pierre, il y a des encouragements, il y a des rappels de que Dieu, par sa puissance, garde ses enfants dans la foi et manifeste aussi sa gloire. Mais il y a aussi un héritage à venir. Et ce matin, je vais prendre juste quelques minutes de vous parler de l'or et d'utiliser ce matériau comme illustration de notre foi. L'or lui-même, oui, qui est périssable, n'a pas la même valeur que notre foi. Notre foi a beaucoup plus de valeur et beaucoup plus précieuse que l'or. Alors, en étudiant sur l'or, j'ai trouvé ça intéressant. On a tous probablement un bijou en or, que ce soit une alliance, un collier. Et j'ai découvert que l'or est utilisé dans différents environnements de la vie quotidienne. Il y a au moins 9 secteurs de la vie où l'or est utilisé. Et ça m'a surpris. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, si Pierre compare la foi à l'or et il mentionne que la foi est beaucoup plus précieuse que l'or, on peut dire que la foi doit être présente dans toutes les sphères et dans tous les secteurs de notre vie. Regardons quelques caractéristiques ensemble de l'or rapidement. Alors je vais retirer ma Bible. J'aime bien venir avec ma Bible, mais j'ai tous les textes. J'ai tous les textes sur mes feuilles. Donc, alors, il y a plusieurs première caractéristique dans l'or. L'or, j'ai appris que l'or est un des métaux les plus lourds, les plus denses qui existent. Quand j'étais plus jeune, j'allais à la pêche et il fallait avoir des morceaux de plomb pour jeter la ligne à l'eau et s'assurer que l'hameçon puisse aller en assez grande profondeur pour arriver à prendre un poisson. Oui, le plomb est un métal qui est lourd. Mais j'ai découvert que l'or est plus lourd que le plomb. La densité dans les normes en chimie, en physique, la densité de l'or est de 19,4, alors que celle du plomb tourne autour de 11. Alors, l'or est beaucoup plus dense, plus lourd que le plomb, même que l'argent. Mais une chose intéressante avec l'or, c'est que l'or aussi, lorsqu'il est pur, réagit très peu, est un produit chimique qui réagit très peu, qui est très peu réactif avec son environnement. De sorte que lorsque vous avez un bijou de 18 ou de 24 carats, mais plutôt de 18 carats, il va garder sa brillance et sa couleur parce qu'il ne va pas s'oxyder, il ne va pas interagir avec son environnement. Et je crois que ce matériau, pour qu'il soit de cette qualité, doit subir plusieurs transformations afin qu'il soit pur. Et je ne vais pas aller dans les détails dans la production de l'or pur, mais il y a deux grandes étapes importantes. Il y a une étape chimique, on parle de chloration, mais il y a une étape aussi qui est liée à la température et ça va au-delà de 1000 degrés Celsius pour arriver à avoir de l'or pur ou de l'or qui se rapproche de la pureté. Et l'or 24 carats est une autre caractéristique qui est un métal qui est malléable. Plus il est pur, plus il est malléable. Voyez les applications sur la foi. Plus la foi est pure, plus on laisse de place à Dieu, plus on lui fait confiance, on fait confiance à sa parole et on lui obéit, plus on devient malléable entre ses mains. C'est intéressant ça. Je crois que Dieu reconnaît une foi qui soit la moins réactive à son environnement. Seigneur, je t'ai prié, tu m'as parlé, et quelques jours, quelques semaines plus tard, je dis, mais il semble que les choses ne se font pas comme tu me l'as dit. Et Dieu est en train d'exercer notre foi. Fais-moi confiance. Et cette situation, cette épreuve est en train de retirer le manque de confiance. Notre sœur Grace a lu un passage dans Romains qui dit « La foi vient de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Il y a des versions qui vont dire « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient du message de l'évangile de Christ. » Il est nécessaire donc que notre foi puisse être exposée à l'évangile, à la prédication de la parole, à la méditation des Écritures, afin que notre foi puisse grandir. Pour que ce qui est, quand on sort ce métal, lorsqu'on sort l'or d'une mine, il y a plein d'impuretés, c'est de la pierre, c'est pas beau, on voit quelque chose briller. Mais il faut faire un traitement, il faut traiter cet or brut pour que ce qui est pur puisse être gardé. Alors certes, dans notre marche dans notre vie, on peut avoir des doutes, on peut être réactif au courant de l'époque. Ah oui, mais j'ai entendu, j'ai lu, j'ai écouté sur Internet, j'ai entendu tel message sur YouTube, telle proposition de découvrir la guérison par le son de la voix. Attends une minute. Ça, c'est comme des scories, de l'impureté. Quand tu retournes aux Écritures, celui qui peut guérir, c'est Christ. Moi, je ne peux même pas guérir quelqu'un. Mais Christ, à travers nous, peut le faire. Je n'ai pas le son d'une voix qui se fait entendre mélodieusement, qui va guérir quelqu'un. Alors, lorsqu'on expose notre foi aux Écritures, notre foi va simplement grandir. Et je crois que Dieu désire que notre foi devienne comme de l'or pur, qui est malléable entre ses mains. Je vous disais tantôt, et il reste quelques minutes, je vous disais tantôt que l'or est utilisé dans notre quotidien, et c'est vraiment surprenant de voir combien il est présent dans la vie de tous les jours. Bien sûr, en bijouterie, les bijoux, on utilise de l'or, et les bijoutiers aiment bien utiliser de l'or pur et le mélanger à d'autres métaux pour le rendre plus dur, plus résistant. Mais aussi, bien sûr, on connaît aussi l'or physique, les lingots d'or. Vous savez, un lingot d'or d'un kilo sur le marché est plus cher que une valeur de plus de 60 000 dollars. C'est quelque chose. Mais l'or est utilisé aussi dans l'électronique pour les cellulaires intelligents qu'on utilise. Il y a de l'or. Parce que, étant donné qu'il réagit très peu, c'est un bon conducteur pour certaines pièces dans ces appareils. Il est aussi utilisé dans le milieu des finances. J'ai été surpris. Il y a des produits financiers nécessitent de l'or. On utilise l'or dans le secteur dentaire pour le plombage et les couronnes parce qu'il est il est inerte chimiquement, il ne crée pas d'allergie. Donc les dentistes apprécient ce produit bien que la céramique soit de plus en plus utilisée. Il est utilisé dans le milieu médical pour certains traitements de maladies, notamment certains types de cancers. C'est surprenant de voir la présence de ce métal dans la vie quotidienne et même son utilisation dans des protocoles thérapeutiques. Et ce qui m'impressionne et qui offre une très très belle image, c'est que l'or est utilisé en aérospatial. Comme on ne peut pas, même pour des moteurs dans l'espace, lorsque des sondes doivent voyager, quand des panneaux solaires doivent être déployés, ou même des robots qui sont placés, des véhicules robotisés qui sont placés sur certaines planètes comme la Lune ou Mars, certains mécanismes nécessitent de l'or pour lubrifier le fonctionnement de certaines pièces. Parce que l'or ne va pas se briser, il est trop dense. J'étais surpris. Le déploiement de certains panneaux pour refléter la lumière du soleil, pour que les équipements ne changent pas trop. Ces panneaux sont couverts d'or, comme un bouclier. Et voyez l'application qu'on peut faire au niveau de la foi. Le bouclier de la foi. La vie quotidienne, des fois, a une telle pression que c'est par la foi qu'on doit tenir pour que la chaleur de l'épreuve ne puisse pas nous atteindre ou nous renverser, mais qu'on puisse persévérer. Dieu désire que nous ayons une foi éprouvée, une foi qui soit pure, qui soit passée par le feu de l'épreuve, afin que lorsque certains défis du quotidien viendront, qu'on puisse déployer le bouclier de la foi, comme on déploie des boucliers thermiques dans l'espace pour certains équipements créés par l'homme. Dans l'aéronautique, ils investissent des milliards d'euros, des milliards de dollars pour justement développer des technologies qui utilisent l'or. J'ai appris qu'on utilise l'or aussi pour la fabrication de certains verres et façades d'immeubles. C'est surprenant. Ils arrivent à saupoudrer de l'or dans, lorsqu'ils fabriquent des vitres, et cet or, ces particules d'or absorbent la chaleur extérieure. Vont réfléchir la chaleur et la lumière extérieure pour que dans l'immeuble, il ne fasse pas trop chaud. Et en hiver, ces mêmes particules vont faire réfléchir la chaleur qui est dégagée par l'immeuble. Dans une pièce, dans une chambre, dans un local, pour que il y ait une économie d'énergie et que la chaleur qui est générée par l'électricité ou par le gaz puisse demeurer dans la pièce. Donc il y a un effet de réflexion. L'or semble vraiment présent un peu partout. Ce matin, je veux nous encourager, tout en sachant l'origine de la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Être conscient que votre foi, notre foi, doit être éprouvée pour qu'on puisse refléter la pureté de l'Évangile. Vous savez, j'ai côtoyé certaines personnes dans ma vie et je parlais plus d'hommes. Je me souviens, j'ai croyé certaines personnes. Et c'était difficile de travailler avec eux. Très difficile. Et même dans l'église. Parce qu'ils étaient dans un processus de transformation qu'ils refusaient de vivre. Alors, leur caractère était extrêmement difficile. Je ne savais pas comment leur parler. Mais on est dans une église, c'est supposé être des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais tu ne savais pas, il fallait même, je ne sais pas, c'était comme tu marchais sur des œufs et tu devais être un rappel, pouvoir t'approcher d'eux et leur parler. Si on ne faisait pas telle chose de telle façon comme ils le désiraient, c'était presque la fin du monde. Tu sais, c'est comme si c'était eux qui avaient écrit le livre d'Apocalypse. Tu avais peur, ok. Mais pourquoi? Parce que leur foi ne se laissait pas transformer. Je crois qu'il est nécessaire pour nous de collaborer avec Dieu, de collaborer avec le Saint-Esprit. Et Dieu utilise les épreuves. Et quand on parle d'épreuves, je ne suis pas en train de parler de maladies ou des conséquences de notre désobéissance. Je suis en train de parler de situations extérieures à nous qui viennent exercer une pression sur notre vie. Et dans ces moments-là, Dieu nous demande de lui faire confiance. De dire, Seigneur, je ne peux pas m'appuyer sur mes sentiments. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que mon juste vivra par la foi. On le voit dans Romains, le chapitre 10, si ma mémoire est bonne. Dieu nous demande de vivre par la foi. Et sans la foi, on ne peut pas le voir. Que ce soit même dans le livre aux Hébreux, que ce soit dans l'Épître aux Romains, l'Épître aux Romains, verset, chapitre 1, verset 17, va le mentionner, au verset 7, que mon juste doit vivre par la foi et non par les émotions. Les émotions ne sont pas appelées à être utilisé pour pouvoir marcher avec Dieu. Mais c'est la foi. Et on entend le témoignage de plusieurs ainsi qui, à cause de l'épreuve, persévèrent et voient des miracles. Dieu ne les abandonne pas. Et aujourd'hui, si tu es éprouvé, Dieu ne t'abandonne pas. Mais il te demande de lui faire confiance et de saisir les promesses qu'il te dit dans sa parole par la foi. On penserait qu'une persécution pourrait détruire la foi et même détruire l'Église. Mais c'est l'inverse. Et l'histoire en parle. Lorsqu'il n'y a pas de persécution, c'est là qu'il peut y avoir plus de dérives au niveau de la foi. Mais Dieu veille. Et il y a des moments où il y a des saisons de grâce et des saisons de faveur. Et même dans l'épreuve, on voit la faveur de Dieu. Pierre a été emprisonné dans Actes chapitre 12. Il a été emprisonné parce que le roi Hérode avait constaté que ça plaisait à certains juifs de voir des chrétiens décapités. Donc il avait emprisonné Pierre. C'était un temps d'épreuve. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée. Et la gloire de Dieu veut se manifester dans ta vie. Ce matin, je vais m'arrêter là, mais je veux nous inviter, alors que nous sommes assis, à dire, est-ce que nous sommes prêts à embrasser tout ce que Dieu a pour nous et à nous laisser épurer, transformer notre foi, afin qu'elle soit plus même que l'or qui est périssable. Je ne peux pas annoncer un évangile qui dit que ton avenir n'a aucun problème. Tu rentres dans une saison ou dans une décennie ou dans un demi-siècle où tu n'auras plus de problèmes, plus de maladies, plus de douleurs. Toute la vie, ce sera beau. Non, c'est faux. La Bible ne dit pas cela. Il y a un temps où le Seigneur reviendra et oui, il n'y aura plus de larmes. Mais jusqu'à ce qu'il revienne, on va passer par des temps d'épreuve, mais dans l'épreuve, on va voir la grâce et la bénédiction de Dieu. Vous avez entendu ces témoignages, même il y a cette femme au Sri Lanka qui a été brûlée au troisième degré suite à un attentat à la bombe. Un kamikaze est rentré dans son église et s'est fait exploser. Ses neveux sont morts, il y a des membres de sa famille qui sont décédés. Et Dieu l'a gardée, Dieu est en train de la restaurer. Et là, elle va se marier. Et est en train de vivre la grâce de Dieu dans sa vie. On a entendu cet homme, Gédéon, qui était en prison. Et le fait qu'il était en prison, il a été exposé à des gens que ni moi, ni vous, ou d'autres personnes dans son pays n'auraient pu rencontrer. Et il leur a annoncé l'évangile. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Et cet homme remercie Dieu pour ce qu'il a fait à travers lui. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques vont dire de nous réjouir face aux diverses épreuves. Parce que notre regard n'est pas seulement terrestre, mais notre regard est céleste. On voit ce qui s'en vient, on a cette espérance. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier en clôturant. Il est midi moins 5. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, que nous puissions être des hommes et des femmes qui grandissent dans la foi en Christ. Toutes ces persécutions, toutes ces épreuves sont là parce qu'on aime Dieu et rien d'autre. Père éternel, ce matin, nous sommes devant toi, Père. Seigneur, tu vois les défis auxquels nous pouvons être exposés et tu vois cet appel à marcher par la foi. Tu nous as justifiés, non pas par nos œuvres, non pas à cause de quelconque mérite qui viendrait de nous, mais nous avons été justifiés par Jésus-Christ afin que toute la gloire te revienne. Et Seigneur, parce que nous sommes justifiés, tu nous appelles à vivre par la foi. Seigneur, c'est par la foi que plusieurs ont annoncé l'évangile. C'est par la foi que plusieurs même sont ressuscités des morts. C'est par la foi que plusieurs ont été guéris, consolés. C'est par la foi même, nous dit l'Épître aux Hébreux, que plusieurs n'ont pas accepté la délivrance, sachant qu'ils avaient une plus grande espérance qui se trouvait en toi. Ce matin, je prie que nous soyons une communauté de foi qui vit par la foi, qui s'attache à ta parole, qui place la foi face aux diverses épreuves auxquelles nous pourrions être exposés, même face à la persécution. Seigneur, je prie, Père, que nous soyons des hommes et des femmes qui, attachés à ta parole, manifestent leur foi dans tous les secteurs de leur vie, comme cet or qui est périssable et présent dans plusieurs secteurs de la vie quotidienne. Que nous puissions prendre cette image et dire, Seigneur, dans tous les secteurs de ma vie, je veux manifester la foi en toi, te faire confiance et faire confiance à ce que tu déclares sur ma vie. Comme ces témoins dans l'Épître aux Hébreux t'ont fait confiance et ont vu ta main agir. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons clore la diffusion en ligne afin, et je vais laisser la parole à Emmanuel, afin de vous faire part d'une belle annonce. Donc que ceux qui doivent faire les annonces puissent se préparer. Mais je vous remercie ceux qui sont en ligne. Soyez bénis. On va se voir dimanche prochain. Et j'aimerais que l'Assemblée reste attentive. Vraiment, on voit la main de Dieu agir. Alors soyez bénis. Je laisse la place à Emmanuel.